Radio G. www.radio-g.fr.
Creature Shock Radio FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
C'est votre émission Info Culture Bang Geek Mafia, une fois tous les 15 jours, les mercredis, de 19h à 20h. Donc bonsoir Pablo.
Salut Seb.
Et bonsoir Kamel, notre invité qui va nous accompagner tout au long de cette émission pour nous parler. Pablo.
Eh bien alors voilà, Kamel Benaouda, écrivain du coup, alors qui a publié deux romans jeunesse et qui va nous les présenter. Alors surtout son dernier roman qui s'appelle LX18. Donc voilà. Je dirais qu'entre-temps, on va passer aussi de la musique, on va parler musique, et puis nous allons, on aura peut-être quelques BD que tu as dans ton panier.
Oui, bah, tu sais bien, j'ai toujours quelque chose dans mon petit panier.
Voilà, et puis je présenterai peut-être un autre roman, voilà, tout à l'heure. Donc, impeccable, on va rester très littérature et musique aujourd'hui.
Oui, tout à fait, parce que nous, on aime l'éclectisme et surtout le 110 mètres.
Ah, voilà.
Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par un petit morceau de musique pour entrer en matière et puis laisser tout le monde s'installer. Et on va écouter donc un morceau de Rival Sun que tu nous proposes.
Ouais. Alors, Rival Sun, c'est même Sébastien qui nous l'a proposé. Ah. Ça s'appelle Burn in the Hand. Bah, écoute, on va écouter ça. Ça a l'air plutôt sympa, vous êtes dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
La radio qui fait le point 100.5. Et c'est parti. We'll be right back. voilà, c'était un petit morceau Revive Soon, donc Bird in the Land, proposé par Sébastien. On lui fait un petit coucou.
Eh ben oui, Sébastien. Et puis un coucou à Romain aussi.
Oui, bah bien sûr qui nous entendent, qui nous écoutent hein, avec attention. Ouais. Voilà, coucou. Un petit coucou.
Alors, je vous propose tout de suite de présenter le dernier roman de Kamel Bennaouda. C'est le deuxième roman de jeunesse de l'écrivain Kamel Bennaouda que nous rencontrons aujourd'hui. Roman qui pose cette question au lecteur, peut-on apprendre les émotions quand on en a été privé depuis toujours? Un petit résumé, c'est une dystopie humaniste qui se dévore. Redoutable soldat, LX-18 est le fruit d'un traitement génétique et hormonal qui l'a privé de toute émotion. C'est un altéré. Lui et ses semblables ne connaissent que la guerre, jusqu'au jour où les négociations de paix aboutissent. Devenus inutiles, les altérés sont envoyés dans différents lycées du pays pour s'intégrer à la population civile. LX-18 se retrouve parachuté en seconde 5 au lycée Marie Shelley avec Amir, Philomène et les autres. Par l'auteur de Norman n'a pas de super pouvoir, gagnant du concours du premier roman Gallimard Jeunesse, Télérama et RTL en 2018. Devenir humain ou mourir ? LX-18, comme tous ses camarades, anciens soldats engagés sur le front durant une guerre qui a duré 60 ans, doit s'intégrer à la société civile en temps de paix. Il a 15 ans, il va intégrer une classe de seconde générale dans un lycée. C'est un peu jeune pour être un soldat et vétéran de guerre, hein, me direz-vous. En effet, lui et ses camarades, garçons comme filles, sont des « altérés », entre guillemets. Des enfants abandonnés à la naissance et rééduqués par l'État qui leur a fait subir une manipulation génétique afin de les couper de leurs émotions, les rendre insensibles à celles-ci et inaptes à toute forme d'empathie. Ils sont surentraînés au combat, aux arts martiaux et au maniement des armes, mais surtout, ils sont dociles et obéissants à tout ordre qui leur est donné. Des machines de guerre donc, des machines à tuer, sans émotion, ni sens moral et encore moins de culpabilité. Comment faire d'un robot humain un lycéen et un futur citoyen? Évidemment, hormis l'école, aucun service public n'est là pour les y aider, aucun psychologue ou travailleur social, ils devront se débrouiller par eux-mêmes. Et avec, en prime, cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus de leur tête, s'ils échouent dans ce challenge d'intégration, d'humanisation, ils seront exécutés. Bonsoir Kamel.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc Kamel, petite première question, c'est un deuxième roman. Je crois qu'il y en a un troisième en cours, si je crois bien. Et quand est-ce que tu t'es décidé à te lancer dans l'écriture, Kamel?
Alors effectivement, oui, tu as dit plusieurs fois que c'était le deuxième roman. En fait, je dis souvent que c'est le deuxième roman publié, mais ça doit être le septième ou le huitième que j'écris, en fait. J'écris depuis que je suis, je pense, fin de collège, début lycée. Et il y a quelques romans que j'ai écrits pour moi et qui n'étaient clairement pas publiables. Mm-hmm. Et puis, d'autres romans que j'ai essayé d'envoyer à des éditeurs et j'ai des lettres de refus à l'appel parce que ça n'a pas marché, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon projet et à chaque fois donc je finissais par mettre de côté et puis me lancer sur un nouveau projet. Et c'est vrai que je pensais il y a quelques jours justement que finalement entre la première fois que j'ai écrit un texte, donc ça devait être autour de 15 ans, et ma publication, il s'est écoulé plus de 20 ans, quoi. Mmh. En fait. Donc, ça s'est pas fait comme ça.
Ouais, donc c'est une longue histoire, en fait.
C'est ça.
Ouais, ouais, ouais.
Beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question.
Bien sûr. Voilà. Et du coup, peut-être aussi un travail, différencié sur aussi, sur des formes d'écriture, sur ta façon d'aborder. La construction.
C'est ça, le truc en France, c'est qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à écrire des romans. Dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus structuré. Il y a des cours de scénario, comment est-ce qu'on construit un personnage, comment on construit un arc narratif, etc. En France, il y a un peu cette idée que soit on a le talent et ça marche, soit on ne l'a pas et tant pis, quoi. Et je crois qu'il... longtemps, plus de 20 ans, c'est aussi peut-être pour se défaire aussi de certains préjugés qu'on a aussi assimilés soi-même, c'est-à-dire par exemple se dire bah, moi je suis pas issu d'un milieu très cultivé, où les livres c'était une évidence à la maison, etc. Mmh. Rien que le fait en fait d'avoir se débarrasser de cette idée-là, ben, mine de rien ça prend du temps. On est quelque part beaucoup conditionné aussi
ouais,
dans y a... cette idée qu'on peut écrire ou pas. Quoi.
Oui, bien sûr. Tu veux dire l'idée de se sentir un moment légitime à se lancer dans l'écriture et à proposer des choses. Quoi.
C'est ça, ouais. C'est ça. Ça a été très long et en fait, pour ouais. l'anecdote, ce qui s'est passé, c'est que j'écrivais pour moi en me disant que de toute façon, ce n'était pas pour moi et, de me faire publier. Mais j'écrivais mes textes et c'était au fond de mon disque dur et ça m'allait bien. Mm-hmm. Et il y a un projet qui m'avait demandé un peu plus de temps, un peu plus de documentation. C'était une histoire de voyage dans le temps. Voilà, qui n'a d'ailleurs jamais trouvé preneur, mais je désespère pas de le réécrire un jour pour que ça fonctionne.
Clairement.
Et en fait, celui-là m'avait demandé quand même beaucoup de documentation, parce que ça se passait un peu dans les années 30. Et là, je me suis dit, voilà, pour le coup, ça demandait quand même beaucoup de travail, donc je vais l'envoyer quand même à des éditeurs. Et il s'avère que mon éditeur actuel, donc Gallimard Jeunesse, m'avait appelé en disant, ben, on va pas le publier, mais franchement, c'était pas mal quand même. Enfin, on n'était pas complètement unanime, il y avait quelque chose quand même, on va vous suivre. Et bon, évidemment, j'ai déprimé pendant 3 jours parce qu'il ne m'avait pas publié. Mais au final, je me suis dit, mais en fait, si, c'est possible. Ça s'est joué à pas grand-chose. Quoi. Mmh. Et ça, c'était il y a 10 ans. Quoi. Donc, ça a été un long travail, effectivement, de se sentir légitime.
Ouais. En fait. Voilà. Et ça, ce n'est pas évident parce que, comment dire, c'est assez mystérieux quand même. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment... un travail, enfin voilà, ton travail qui aboutit accroche chez un comité de lecteurs, lectrices d'une maison de publication. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment où qu'ils ont la réticence
Alors j'aimerais dire que c'est une question de talent, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance aussi. Ouais. Moi j'ai commencé aussi en fréquentant des forums d'écriture. Et des gens qui écrivaient des textes super, mais qui se faisaient pas publier parce que voilà, c'était pas le bon moment, etc. Et puis à côté de ça, des fois, ils sortent des trucs qui sont pas terribles non plus, quoi. Donc, je crois qu'il y a un facteur chance aussi. Moi, en l'occurrence, pour Norman, c'était un concours. C'est pour ça que quand on me demande souvent, quand je rencontre les classes, quels conseils vous donnez aux jeunes écrivains, j'ai toujours participé à des concours parce que déjà, ça forme beaucoup la plume. Mm-hmm. Et puis, c'est un bon moyen de se faire connaître parce que là, pour le coup, ils donnent leur chance à n'importe quel quidam qui écrit quoi. Et en fait en l'occurrence justement ils ont fait la 5e édition du concours.
D'accord.
Moi c'était la 3e, donc c'est un concours organisé par Gallimard, RTL et Télérama. Et donc chaque édition ils ont un truc comme 1000 manuscrits que des gens envoient et là voilà, je pense que la thématique des super-héros, la thématique le fait que ce soit jeunesse voilà, enfin il y avait de l'humour, beaucoup d'humour aussi, que ce soit de l'imaginaire, mais quand même qui parle aussi de la réalité, ça fait partie de ces petites choses qui ont plu à ce moment-là. Quoi. Il s'avère qu'à ce moment-là, on était à fond dans les adaptations, on l'est toujours hein, d'ailleurs, de super-héros en film. Du coup, c'était bien dans l'air du temps.
Ouais, clairement. Alors justement, puisque t'en parles, je me disais, en fait, ce premier roman, Norman n'a pas de super-pouvoir, tu prends un peu le contre-pied, en fait, de toute une culture pop, des Marvel, des séries qui vont présenter plutôt des adolescents ou des jeunes ou des adultes, hein, mais qui ont des super-pouvoirs. Et alors ?
C'est vrai, j'ai grandi dans les années 80 et c'est vrai qu'il y avait quelques séries et puis on avait des BD, des comics, etc. autour des super-héros. Et bon, sans être misérabiliste, hein, moi j'étais d'un milieu un peu défavorisé et il n'y avait pas grand chose à faire en fait dans le quartier dans lequel j'ai grandi à part lire ou bien regarder la télé. Et ces moments où on regardait des histoires de super-héros, c'était vraiment des grandes parenthèses, hein, c'était magique quoi. Et hyper divertissant, mais sauf que une fois que le bouquin était fini, enfin la BD était terminée, que l'épisode de Spider-Man, je pense aussi à la série Batman là, des années 90, qui était vraiment génial. Ouais. C'était fini, et ben au final, on revenait dans une réalité qui était assez triste, quoi. Et je me suis dit, ça aurait été bien une histoire dans laquelle il y ait des super-héros, mais où à la fin, on se dise que peut-être dans la vraie vie, ne pas avoir de super pouvoir, c'est chouette aussi quand même, quoi.
Ouais.
J'ai pas formulé ça comme ça dans ma tête à cet âge-là, mais
ouais,
je pense que c'est un truc qui est resté dans un coin de ma tête. Et puis le deuxième déclencheur, je pense, c'est que bon, ils ont vraiment essayé, même encore aujourd'hui, de lancer plein d'histoires, de films autour des super-héros. Et pour éviter la lassitude, ils disaient souvent, mais là, attention, c'est pas comme les autres super-héros parce que, mais au final, quand on regardait l'explication, ça restait des super-héros, quoi.
Bien sûr.
Et du coup, je me suis dit, mais finalement, si on résume un petit peu toutes ces histoires de super-héros, comment on pourrait les résumer en une phrase? Ben, c'est toujours une personne ou un groupe de personnes qui a des super-pouvoirs là où personne n'en a.
Ouais.
Et du coup, ben voilà, qu'est-ce qui se passe si on inverse le postulat, quoi?
Ouais.
Tout le monde a des super-pouvoirs sauf une personne. Puis après, ben, c'était parti, quoi.
Ouais, clairement. Clairement, clairement.
Je vous propose de faire une petite pause.
Allez.
Hein, une petite pause musicale, gentillette. Donc, la Kamel, tu nous as proposé quelques petits morceaux de musique que tu aurais aimé entendre. Donc, on va écouter le premier. C'est Buffalo Springfield, For What It's Worth, sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point, et c'est maintenant.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. In the street, singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Better stop now, what's that sound?
Et oui, vous êtes bien sur Radio G, vous êtes bien en train d'écouter Bang Geek Mafia, ce n'est pas apostrophe, mais pourtant nous avons une émission littéraire avec Kamel
Benahouda,
qui est présent parmi nous, et donc on va continuer ce petit interview tranquille.
Bah cool. Alors Kamel, ouais, bah du coup, pour revenir un petit peu à ton écriture, alors moi je me posais la question aussi, qu'est-ce qui a fait que tu as pris alors deux parties pris, hein, l'adolescence et la dystopie. En fait, il y a deux questions.
Là, tu parles de Norman.
Alors, de Norman, mais...
L'X-18 est aussi une dystopie. Mais...
Et voilà. Ouais. Et pareil sur l'adolescence. Alors, qu'est-ce qui a fait un moment que tu t'es dit, tiens, ce monde m'intéresse et je vais les placer dans une situation de dystopie, quoi.
Alors, la question de l'imaginaire, de la dystopie, je pense que ça me vient... j'ai été très impressionné, enfin très marqué par les bouquins du XVIIIe siècle, des type Voltaire, Montesquieu, qui adoptent le point de vue du regard étranger, type Micromégas, Candide, personne, etc. Ouais. Et j'aime bien cette idée qu'en fait, adopter, enfin prendre un personnage ou le mettre dans une situation qui nous est complètement étrangère, et ben quelque part, ça nous permet de mieux réfléchir à notre société à nous. Et parce que nous, on voit pas tout ça parce qu'on est pris dans l'habitude, on est pris dans la routine, on a une sorte de on est aveugle, on a des œillères quoi. Et ouais. En fait, le fait d'imaginer ce genre de personnage, parce que c'est ce qui se passe dans Norman par exemple, on a effectivement un personnage où n'a pas de pouvoir alors que tout le monde en a un. Mmh. Mais finalement, à part ça, il y a des scènes au collège, à la cantine, au parc. Enfin, il y a rien de. C'est que des situations dans lesquelles la plupart des jeunes peuvent se retrouver.
Bien sûr.
Après, par rapport à l'adolescence, pourquoi cette cible? Je pense vraiment que moi, je suis d'une génération en fait où il n'y avait pas encore Harry Potter, plein de bouquins de littérature jeunesse où là maintenant limite il y en a presque trop quoi. Mmh. Et du coup, finalement, moi j'ai appris le plaisir de la lecture un petit peu tout seul et il a fallu en fait que je passe tout seul des albums ou des BD un peu genre les Schtroumpfs ou Tintin à Flaubert et Balzac quoi. Il y avait pas d'entre deux quoi. Alors, il y avait un peu de littérature anglo-saxonne, je pense à Anthony Horowitz ou ce genre de choses. Mais je crois que j'écris des bouquins que j'aurais aimé lire à cette époque et d'ailleurs je pense beaucoup aux faibles lecteurs, ceux qui n'ont pas beaucoup l'habitude de lire. Je suis toujours très content dans les salons quand il y a un jeune qui me dit « Moi, j'aime pas lire, mais votre bouquin, j'ai adoré.
Ouais, »
Et voilà, j'essaie d'utiliser plein de techniques pour essayer de les accrocher parce que, comme je dis souvent, c'est à cet âge-là, en fait, qu'ils ont un esprit qui est encore en formation. Par contre, quand ils seront adultes, c'est pas qu'ils sont foutus, mais qu'il y a quand même une grosse part de leur personnalité qui est déjà faite et c'est fini, quoi.
Ouais, c'est vrai. Puis après, les gens sont pris dans la vie et c'est vrai qu'il y a pas forcément... Enfin, l'envie de forcément de repartir sur ça.
Moi, j'ai une petite question, Kamel, justement. Là, tu évoquais ton enfance. Quel était finalement le livre que tu préférais quand tu étais jeune? Les livres
Je pense que la première claque, on va dire, que je me suis prise sur le plan littéraire, c'est bizarre de dire ça d'un bouquin qu'on préfère, mais bon,
oui.
C'était une claque quand même. C'était Le Passeur de Loïs Lowry. Et que j'ai lu en quatrième, troisième, qu'il y a une adaptation en film qui est complètement nulle. Vaut mieux lire le livre. Et je crois bien que c'est la première fois que j'ai lu un bouquin et à la fin je me suis dit j'aurais bien aimé écrire ce truc quoi. Vraiment.
Il y a encore une dystopie hein.
Oui, effectivement, tout à fait. Comme quoi j'avais déjà le pied dedans. Quoi.
Et tu l'avais découvert comment, si tu te souviens?
J'ai eu la chance de grandir en fait à côté de la bibliothèque du quartier dans lequel j'ai grandi. Nous on n'avait pas le livre à la maison, mais. Voilà, mes parents savent pas lire, et puis même mes frères et sœurs lisent pas beaucoup. Il suffisait que je traverse la rue pour aller à la médiathèque, et ça a été vraiment... des fois, je pense souvent quelle serait ma vie si la médiathèque avait été plus loin, quoi. Et je pense vraiment que ça aurait fait beaucoup de différence.
Ouais.
Donc, ouais. Oui, vas-y.
Non, continue.
Ah non, c'était ma petite question.
C'était ta question. Ouais. Mais d'ailleurs, parce que tu parlais de ton écriture et c'est vrai que moi ce qui me frappe par exemple c'est cette écriture très sobre, très très dépouillée, mais qui est très efficace du coup, qui va très c'est vrai que déjà dans Norman hein, mais dans LX18 c'est très frappant de voir tous ces petits cliffhangers à la fin qui donnent envie de lire, tu nous tiens en haleine. Comment tu procèdes en fait? Est-ce que ça te vient comme ça ou est-ce que tu fais un travail d'épure? Je me pose la question.
C'est compliqué parce que j'ai l'impression que chaque bouquin fonctionne différemment, mais moi j'ai l'impression que il y a un long temps en fait de réflexion d'abord, à partir du moment où on a un personnage. De plus en plus je me rends compte que c'est un peu comme ça que je fonctionne. Après, je me dis, ah ouais, j'ai un point de départ. Je me dis, ah tiens, ça pourrait être sympa, justement, un type sans super pouvoir, alors que tout le monde en a, ou un soldat génétiquement modifié pour ne ressentir aucune émotion. Mais j'écris pas encore, et j'attends, en fait, que d'avoir une idée de la fin, comment ça va se terminer.
Ah ouais.
Et quand je sais comment ça se termine, souvent d'ailleurs, je commence par écrire la fin, la dernière page, en fait.
D'accord.
Et après, Du coup, j'aime pas trop. Il y a ceux qui font des plans très détaillés, etc. J'ai un peu de mal quand même avec ça.
Ouais.
Moi, j'aime bien avoir une visibilité sur quelques chapitres quand même, savoir un peu ce qui va se passer. Mais effectivement, t'as raison. Je fais vraiment attention à ce que chaque chapitre, faut qu'il soit court, faut qu'il ait une unité en tant que telle. Alors pas qu'il soit pris, qu'on puisse le prendre indépendamment, mais c'est comme s'il y avait une mini histoire dans l'histoire. Et effectivement, il faut qu'à la fin, il y a ce petit truc qui te donne envie d'aller chercher le chapitre suivant, quoi.
Ouais.
Mais ça se fait souvent quand je fais le premier jet, comme j'ai pas fait de plan très détaillé, bah au final, c'est pas toujours vraiment d'équerre, quoi. Du coup, c'est là qu'il faut revenir, retravailler, déplacer éventuellement certains passages. Voilà, c'est beaucoup de bricolage, en fait.
Bien sûr.
Voilà.
Ouais, mais c'est intéressant de rentrer dans l'artisanat, justement, dans la matière littéraire.
Il y avait un cinéaste, je sais plus lequel, mais qui disait, quand il parlait de l'écriture de scénario, il disait, mais en fait, on écrit le texte, et par contre, une fois qu'on le retravaille, qu'on le retouche, en fait, c'est du bricolage et, Enfin, voilà, il disait ça avec beaucoup de mépris, mais moi, je suis vraiment le roi des bricoleurs, quoi. Dans ce cas-là, je passe mon temps à refaire, à réécrire, à reprendre des notes, à changer des choses, etc., jusqu'à la fin, quoi.
Ouais, clairement. Oui, moi, je trouve intéressant, moi, d'avoir cette démarche, parce que il y a un peu le mythe de l'écriture talentueuse, géniale, où on va presque d'un seul jet produire quelque chose. C'est quand même un sacré mythe, quoi.
C'est ce qu'on voyait beaucoup dans les téléfilms et films des séries des années 80. Ouais. Tu sais, c'est le type tape à la machine.
C'est ça.
Il écrit, il sort la dernière feuille, il met dans une enveloppe, il envoie à son éditeur.
Ouais. Enfin,
pas possible, quoi.
C'est pas possible. Ou alors, dans ces cas-là, il faut prendre alors un film qui date un petit peu. Hein, c'est Le Magnifique de Belmondo, où il est auteur et il se fait son film aussi. On voit qu'il reprend. Hein, il a pas le premier jet, lui. Hein,
oui, premier jet. Clairement. Et j'insiste beaucoup aussi quand je fais des rencontres auprès des classes, parce que c'est un discours quand on voit le bouquin publié. Bon, a priori, il y a plus de fautes d'orthographe, c'est tout propre, c'est tout bien paginé, etc. Et je pense qu'on peut avoir vite fait de se dire, en fait. Il a écrit comme ça, comme c'est venu, quoi.
Ouais.
Du coup, j'aime bien montrer des brouillons, montrer entre la première version et le bouquin publié, les différences, etc. C'est beaucoup de réécriture.
Ouais. Ouais, clairement.
Donc, du coup, tu passes beaucoup par la feuille papier ou par l'ordinateur? Ça, c'est la question. Piège.
Au carnet de notes.
Au carnet de notes.
Avant, j'écrivais beaucoup au cahier, effectivement. Et après, je recopiais, mais déjà, il y avait des changements. Et sauf qu'en fait, comme je réécris beaucoup, enfin comme je dois beaucoup recorriger, d'ailleurs des gens aussi qui m'aident beaucoup pour l'écriture, enfin améliorer mes phrases, etc. Parce que c'est pas la partie dans laquelle je suis le plus doué, et c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Moi, j'aime bien raconter des histoires, inventer des personnages, mais le style en tant que tel, c'est le truc qui me pose problème. Du coup, j'ai souvent un peu besoin d'aide. Mais du coup, j'ai oublié la question.
Non. La question, c'est, tu utilises plutôt du papier, la feuille papier, ou
pour être plus efficace, Elix 18, par exemple, il y a eu très peu, enfin, il y en a eu un peu, hein, quand même. Je bossais encore beaucoup avec le cahier. Mais, j'essaie de prendre de moins en moins de temps, en fait, et d'écrire directement sur l'ordinateur. Même si, au final, un texte écrit à l'ordinateur demandera plus de travail qu'un texte qu'on a d'abord écrit au papier. Enfin, je trouve. Parce que déjà, quand on va recopier, entre le papier et l'ordinateur, on améliore déjà pas mal de trucs, quoi.
Ouais, clairement. Voilà. Clairement. Ouais, ça m'étonne pas. Mais justement, on parle un peu de l'X18. Alors, moi, ce qui m'a frappé, alors, c'est cette, ce qui frappe le lecteur, c'est tout ce travail sur l'émotion. Toute cette recherche sur le thème de l'empathie et des émotions. Alors, pourquoi ce thème-là? Qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé?
Je crois que une histoire, c'est toujours, en fait, je sais pas, c'est comme si, j'ai toujours un peu cette image, hein, je suis pas tout seul, hein, mais on vit notre vie et puis on ramasse par terre des petits bouts de puzzle. On sait pas trop ce qu'on va en faire, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'un truc qu'on a ramassé aujourd'hui, ça va avec le truc qu'on a ramassé il y a 10 ans. Et là, en l'occurrence, je pense que c'était ça, il y a 10 ans, j'ai dû tomber sur un article qui expliquait que la lecture favorisait beaucoup l'empathie. Et le fait que, quelque part, si les gens lisaient plus de bouquins, il y aurait peut-être moins de violence, moins de... Et je me suis dit, c'est fou, enfin, c'est... voilà, ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, il y a un truc à faire ouais. par rapport à ça. Et le truc un peu drôle d'ailleurs, c'est que je pense que je l'avais, j'ai pas conscientisé, mais quand j'ai écrit le bouquin, voilà, donc il y a une grande importance justement du coup des livres dans LX18. Grâce à la littérature, il va s'éveiller petit à petit. Et je m'en suis vraiment rendu compte à la fin du premier jet, justement. Je me suis dit, ah, c'est vrai que la littérature, l'art, c'est vraiment hyper important, quoi. Et vraiment, là, il y a des coïncidences assez drôles. C'est que c'est arrivé pile à ce moment-là qu'on était au moment du Covid, c'était le confinement, et on avait considéré que les librairies, c'était des commerces non essentiels, et du coup, on les a fermés, quoi. Et je me suis dit, c'est fou de se rendre compte à quel point la littérature, c'est important.
Ouais.
Pile au moment où le gouvernement dit, bah non, en fait, on va fermer. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de dépressions ou de moments, en tout cas, voilà, qui ont été difficiles pour beaucoup pendant ce confinement qui aurait été réduit si on avait pu lire, quoi.
Clairement. Et c'est vrai que, c'est vrai que le confinement, ça nous a montré, par exemple, à quel point, bah déjà, l'art a été essentiel et nous a sauvés aussi ou nous a permis de tenir enfermés, cloîtrés, que ça soit alors évidemment lecture, musique, série, mais aussi même je trouvais la créativité des gens en fait, hein, incroyablement diverse.
On passait des choses sur les réseaux et il y avait des, je me souviens des groupes de musique qui pouvaient pas jouer ensemble, du coup ils avaient trouvé des moyens de voilà des danseurs, etc. Ouais. Puis même des fois juste des gens qui faisaient des gags autour de tout ça, quoi, et mettre de l'humour aussi, je pense que c'est ça aussi qui nous a aidés. Et d'ailleurs il y en a un petit peu dans l'X18 parce que ça fait partie aussi de son processus pour devenir humain, quoi.
Ouais. Donc, voilà. Ouais, clairement.
Un petit morceau de musique pour
Allez,
faire une petite coupure.
Très bien.
Et je vous propose éventuellement dans notre playlist ce soir un petit morceau de Gorillaz.
Alors oui, c'est le dernier morceau qui est sorti là dernièrement qui s'appelle Cracker Island. Voilà, Gorillaz, hein, super formation qui revient dernièrement. Tout de suite dans Bande Geek Mafia
sur Radio G 100.5, la radio qui fait le point. Et c'est parti.
Yo.
C'est parti, si ça veut bien partir.
On Cracker Island, it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was not attuned. And it's sadness I consumed. As every day, in the end, I had to pay.
What world is this?
Et voilà, c'était Gorillaz.
Ouais, ça fait du bien aussi.
Ouais, Shaka Island.
Yes.
Alors du coup, on va faire... Bah voilà, est-ce que toi, tu dois avoir quelques petites BD dans ton panier?
Oui, tu veux pas que je te mette le générique? Non, quand même, non.
Oh.
Je te sens bien venir avec le générique.
Tu l'as par là?
Ouais, je l'ai par là, je peux le trouver par là éventuellement. Calmel le connaît peut-être pas, donc ça va peut-être permettre de le faire découvrir, ce générique, mondialement et célèbrement demandé. Ah non, je ne l'ai pas.
Ah d'accord. Bah écoute, ce sera pour une autre fois. Alors ouais.
Je l'ai pas, je sais pas où Seb l'a mis. Tac.
Non, ouais. De du rêve.
On
là.
Le retrouve.
J'ai vendu du rêve, mais non, je ne l'ai pas.
Écoute, on va t'écouter alors.
Bah, écoutez, je vais essayer de vendre du rêve là avec une bande dessinée un petit peu différente. Donc il y a depuis 2 ans, on a donc l'odieux connard et Monsieur le chien qui font donc une série bande dessinée aux éditions Fluide Glacial qui s'appelle le petit théâtre des opérations. Un petit théâtre des opérations qui raconte que des histoires vraies, et ça c'est extrêmement intéressant parce que ce sont des anecdotes complètement quand on les lit on se dit mais mon dieu où va-t-il chercher ça, comment fait-il pour l'inventer, a-t-il fumé, a-t-il bu, non tout est vrai, malheureusement tout est vrai, tout est étayé par des preuves historiques, des sources, donc tout est vrai. Et donc là, dans le cadre de la journée de la femme, donc Julien Hervieux, hein, qui est donc le vrai nom de Monsieur l'odieux connard, et Virginie Augustin ont décidé de faire une édition spéciale du Petit Théâtre des Opérations spécial femme, toujours prête. Elles sont déterminées, révoltées et surtout toujours prêtes. Saviez-vous que les Allemands avaient affronté un régiment de sorcières durant la Seconde Guerre mondiale, ou qu'en 1914, l'armée serbe comptait dans ses rangs Milune ou la Mulane locale, faisant régner la terreur à coups de grenades? Et quid de Marie Marvin, qui a été tour à tour sportive de haut niveau, soldate, infirmière et qui pilotait encore un hélicoptère à réaction à 86 ans? Eh bien, vous découvrirez tout cela dans ce tome exceptionnel, toujours prête, du Petit Théâtre des Opérations. Pour indication, pour nos amis, nos auditeurs qui peuvent nous écouter et qui sont donc du côté du Mans, il y a une édition très très limitée qui a été réalisée, notamment autour du premier, de la première personne qui nous est donc présentée, qui s'appelle Marie Marvin, la fiancée du danger, puisque le nouveau stade du Mans va prendre son nom, et donc il y a une édition spéciale qui a été faite qui ne raconte que cette histoire et d'autres éléments qui rapportent encore d'autres éléments dans cette bande dessinée. Donc à découvrir, vous avez au final 8 histoires, 8 femmes, 8 parcours complètement surprenants. Donc déjà Marie Marvin, moi je vous conseille parce que là franchement c'est traité avec beaucoup d'humour, hein, comme on peut dire, hein, c'est dernière bulle, dernière case, Marie Marvin mourut en 1963 à 88 ans. Bon, je ne spoilie pas grand-chose, hein, vous doutez bien qu'elle est décédée quand même depuis un bout de temps. Et là, on a donc Saint-Pierre qui accueille Marie Marvin. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? À vélo, mais je peux revenir avec mon hélicoptère à réaction. Donc c'est toujours extrêmement décalé et surtout... On a toujours une petite page de présentation qui nous montre donc des documents réels et qui précise aussi des choses par rapport donc au personnage.
Ah oui, donc on est clairement entre BD historique et humoristique.
Ah, très très humoristique. Tout ce qu'on aime. Et puis là c'est bien parce que ce sont les femmes qui sont mises en avant. Donc ça c'était aussi extrêmement intéressant. Donc voilà.
Classe. Yes.
Et on repart sur notre interview de...
Ouais, avec Kamel. Je rappelle que Kamel Benaouda est notre invité dans Bande Geek Mafia. Et du coup, on est en train de parler de son dernier roman, publié chez Gallimard Jeunesse, LX18. Et alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais je voudrais qu'on continue un petit peu sur cette thématique-là parce que, comment apprendre les émotions humaines? Alors, tu proposes deux voies, hein, mais il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi, deux que j'ai vues, hein, d'abord dans la rencontre, et tu parlais de la rencontre avec l'étranger, celui qui nous est étranger, et c'est clair que LX18, c'est un étranger pour les jeunes dans le lycée dans lequel il arrive, mais aussi pour nous, hein, qui le lisons, ou qui le... Enfin, je dirais qu'au départ, on est un petit peu... Et il nous est vraiment étranger. Il me fait vraiment penser à un morceau. on se dit mais qu'est-ce qu'un tueur, qu'est-ce que je peux avoir à faire avec un tueur? Et puis de plus en plus on rentre en empathie. C'est ça qui est incroyable. Et à la fin, on est à fond avec lui. Alors, première, déjà la rencontre. Et puis, alors après, évidemment, la littérature. C'est-à-dire le fait de lire des pièces de théâtre, de lire du Shakespeare, du Racine. Ça, c'est là qu'on apprend les émotions.
Ouais.
Donc voilà, du coup, bah, c'est pas vraiment une question, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait ces deux pistes que tu as explorées.
En fait, je m'en suis rendu compte aussi dans la préparation. Je me suis dit, tiens, donc ce sont des soldats qui n'ont pas d'émotion. Comment est-ce qu'on va les appeler? Donc j'avais différentes idées, je ne les ai plus en tête. Et finalement, j'ai gardé la notion d'altérer, parce qu'on altère leur ADN, leur patrimoine génétique, pour qu'ils ne ressentent rien. Mais il y a aussi, dans altérité, ça vient, il y a aussi ce mot altérité, en fait, qu'on entend.
Ouais,
et c'est la rencontre avec l'autre, effectivement, qui. Moi, je trouvais que c'était intéressant, en fait, si tu veux, de se dire, c'est un type qui n'a pas d'émotion, où est-ce que je vais le mettre? Eh ben, peut-être dans l'endroit où les émotions, c'est peut-être le plus important, le milieu scolaire, quoi. Parce qu'on dit souvent, en tant qu'enseignant, que l'école, c'est pour apprendre, c'est pour transmettre, faire les programmes, etc. Mais voilà, on n'est pas dupes et on sait que pour les jeunes, c'est l'endroit où vont y avoir leurs premières amitiés, les premiers amours, les interactions sociales, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être super intéressant d'avoir ce personnage qui n'y comprend rien, du coup, tous ces codes qui le dépassent complètement. Quand je vois nous-mêmes, notre génération, on comprend pas forcément toujours tout ce que font les jeunes d'aujourd'hui. Et inversement, nos parents comprenaient pas ce qu'on faisait non plus. Je pense quand on était jeune, j'aime bien cette idée de se dire pour lui, c'est lui être complètement l'étrangeté, elle est des deux côtés quoi en fait.
Ouais.
Et je trouve que c'est intéressant parce que justement par rapport à ce que je disais sur le regard étranger, ça permet aussi que chacun se remette en question aussi, se dire mais c'est vrai que nous on fait ça, c'est vrai que c'est bizarre, etc. Voilà.
Ouais, tout à fait. Un décentrement presque anthropologique quoi en fait. Hein.
Bon, je sais pas si j'irai jusque là, mais
il y a un petit côté comme ça, en tout cas psychologique qui est clairement marqué. Alors sur la question de la littérature, oui. T'en as parlé un petit peu avant, hein, mais c'est vrai que cette idée que on apprend aussi l'émotion dans la lecture et notamment dans la fréquentation et même je dirais dans le jeu. Alors ça c'est marrant parce que en fin de compte, bon, sans spoiler grand chose, hein, mais en fin de compte il est embarqué dans une répétition théâtrale qu'il doit préparer avec Philomène, avec Philo. Mais alors, il est... donc, au départ, forcément, c'est du mimétisme pur. Puis, petit à petit, il se prend au jeu. Et je dirais que ma question, c'est, en jouant l'émotion, peut-on apprendre l'émotion?
Demander ça à un prof de philo. je pense que effectivement il y a de ça, c'est-à-dire que d'ailleurs pour en revenir sur cette question de la littérature, c'est enfin je sais que voilà moi-même j'ai l'impression qu'une part de ma personnalité, de ma sensibilité, de ma manière de voir le monde, elle a été décidée par les bouquins que j'ai lus quoi. Et je pense que c'est le cas, enfin ça peut être le cas aussi pour X18. Et après concernant la question du mimétisme, alors il y a un personnage qui est mimétique aussi, qui le fait très bien, sans trop spoiler, mais voilà, une camarade d'Elix, et pourtant elle, ça marche pas quoi. Donc je pense que ça peut faire partie d'une solution, mais en même temps, quelque part pour Elix ça marche parce qu'il cherche vraiment à comprendre en fait. D'ailleurs il y a une sorte de phrase qui revient régulièrement où il dit ce que je comprends de telle chose, je sais pas, du bonheur, de l'amour.
Ouais.
Et après, il en explique sa vision, et je pense que c'est une manière pour lui de montrer qu'il cherche quand même à essayer de comprendre. Alors que certains de ses camarades imitent, mais sans forcément
Absolument.
Se poser vraiment des questions.
Quoi. Ouais. Et alors justement, parlant des personnages, parce que bon, là évidemment, on parle de Alix-18, l'altéré, et qui essaye de devenir humain. Mais alors, il y a aussi Philomène, et puis il y a Amir. Moi, je trouve magnifique ce personnage de Amir.
Moi aussi, je l'aime bien.
Ouais, tu l'aimes bien aussi. Hein. Comment il t'est venu celui-là ?
En fait, j'aime bien d'ailleurs le nomastique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on choisit les noms des personnages. Alors des fois, c'est des noms qui sont complètement imposés. Enfin, comment dire ? Voilà, il y a un personnage qui s'appelle Dimitri, il s'appelle Dimitri, quoi. J'ai pas d'explication.
D'accord.
Mais Philomène, Philomène, je sais plus ce que ça veut dire Philomène au départ, mais quand on, comme tout le monde l'appelle Philo, tu sais que ça veut dire aimer. Voilà, il y a ce côté, du sentiment amoureux qui va peut-être arriver de ce côté-là. Et Amir, ça veut dire le noble un peu. Et fait, c'est le type qui se prend des raclées pendant tout le bouquin, qui est complètement impopulaire, tout le monde se moque de lui, etc. Je crois que ce que j'adore chez ce personnage, et c'est pour ça que j'aimerais lui ressembler davantage, c'est qu'il a, en fait, bon, sur le coup, voilà, c'est dur, mais en fait, très vite, il passe à autre chose, voire il en rit, et quelque part, je pense que c'est une sorte de modèle un petit peu pour X-18. Il fallait en fait trouver un personnage qui soit aussi une sorte de paria, mais pour d'autres raisons, du coup.
Ouais.
Et c'est comme ça que ce personnage d'Amir. C'est imposé. Il y a même un moment, cette phrase, je crois, je me souviens plus exactement, mais où il dit, X-18 dit, ah voilà, ce type, il tiendrait pas deux minutes sur un champ de bataille, mais c'est mon allié le plus précieux, quoi.
Ouais, exactement. Que, exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il est impressionnant parce que c'est une vraie aide, c'est un vrai adjuvant, hein, comme on dit en littérature. Mais alors, du coup, il ne lâche jamais sur sa bonté, quoi. C'est-à-dire, il a beau se prendre des claques, des humiliations, voilà, bah non.
C'est une manière de... Bah, il fait preuve quand même aussi d'une forme de courage, de combativité, quoi, qui est évidemment pas du tout la même que sur un champ de bataille, mais voilà, qui a quelque chose d'assez admirable. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que pour l'anecdote, dans les interventions que j'ai pu faire jusqu'à présent autour du bouquin, je suis intervenu dans une classe à un moment où il s'était amusé à faire les portraits des personnages à partir de sites d'intelligence artificielle. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais en fait, on fait une description du personnage et il génère
une image.
Donc, il me montre l'X-18. Enfin, en gros, l'idée, c'était que je sache un petit peu, que je dise un petit peu ce que j'en pensais, quoi. Donc, il me montre l'X-18, il me montre Philo, on en parle, etc. Il me montre Dimitri et puis, moi, j'attends Amir, en fait. Et là, en fait, il y a un grand bug, un grand silence. Et en fait, la prof dit, on a oublié Amir, quoi. Et en fait, pour elle, c'était un drame, quoi. C'est-à-dire, comment on a fait pour l'oublier, en fait.
C'est clair.
Ah ouais. Et ça m'a touché. C'est bien. C'est vrai que c'est important.
En fait, ça veut dire que le personnage a tellement fonctionné que.
Voilà. Comme si on avait oublié sur le quai de la gare, quoi. On a oublié sur une aire d'autoroute, quoi. C'était pareil.
Terrible.
Normalement, c'est les petites grand-mères qu'on oublie sur les aires d'autoroute.
Voilà. Alors, est-ce que t'as une. On se fait une petite pause musicale, peut-être.
Ouais, moi j'ai juste une petite question quand même aussi en même temps, parce que donc le thème, donc c'est justement l'apprentissage par quelqu'un qui l'apprentissage de l'être humain, quoi, des sentiments, par quelqu'un qui n'a jamais été finalement formé ou qui n'a jamais été sensibilisé. Est-ce que quelque part tu te serais inspiré aussi éventuellement du sort de ce qu'on appelle les enfants soldats qui doivent se réhabiliter aussi en même temps par rapport à ça?
Alors, on m'a dit pas mal de trucs. Pour moi, il fallait que ça soit un enfant, parce que un jeune, comme je disais, parce que je savais qu'il fallait qu'il aille au lycée. Après, en fait, ça fait écho à, malheureusement, hein, plein de situations, parce que là, tu parles des enfants soldats, mais il y a aussi, j'ai appris, c'est des élèves qui m'ont dit ça aussi, d'ailleurs, auprès desquels je suis intervenu, qui m'ont dit, mais vous savez que les États-Unis, ils ont un programme comme ça, où en gros, par produits chimiques, on insensibilise un peu les soldats pour qu'ils soient plus efficaces au combat, moins réactifs à la douleur, etc. Alors, du coup, des fois... la réalité rattrape quand même vachement bien la fiction.
Parce que moi, là, en vous entendant échanger, moi, honnêtement, moi, je pense justement à tous ces programmes de réhabilitation de ces enfants qui sont soumis à une hyperviolence, à l'alcoolisation, quoi. On les alcoolise, on les drogue pour inhiber finalement tout sentiment humain, pour obéir, pour être de la chair à canon purement et simplement, quoi.
Tout à fait. Ouais. Après, est-ce que c'est la question, c'est est-ce que enfin, c'est pas pour autant que c'est antimilitariste.
Non, mais c'est pas.
C'est plus pour poser des questions, effectivement, sur cette question-là de qu'est-ce qui fait notre humanité, et voilà.
Donc voilà, on va écouter un petit morceau de musique, on va faire une petite pause. On va prendre un deuxième morceau que Kamel nous a proposé. Je propose un petit Stevie Wonder.
Allez.
Superstition.
Superstition.
Dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le coup. Questions encore à poser encore à Kamel Benaouda, notre invité. Alors écoute, on parlait de ton dernier roman, donc Alex 18, et c'est vrai que bon, je absolument pas divulgâcher, mais quand on arrive à la fin, on n'a pas envie que ça soit la fin. Donc, as-tu prévu une suite? Voilà.
Alors en fait, c'est des fois la première question qu'on me pose, effectivement, est-ce qu'il y aura une suite? Et il y en a qui ont été très déçus. Il y en a qui ont été très enchantés par cette fin. Et puis au milieu, moi je suis là. J'avoue que je ne sais pas trop quoi penser. Je suis un peu entre deux eaux, quoi. J'ai quelques idées quand même des fois pour une suite.
T'as laissé une petite ouverture.
Qui prendrait plus comme personnage principal Alex 45. Du coup, ça ne serait pas vraiment une suite. Mais bref, une sorte de spin-off un peu, quoi. Mais qui raconterait, qui permettrait quand même de boucler sur Alex 18. Après, ce que je dis souvent et qui résout la question, qui fait que ça ne dépendra pas forcément de moi, c'est les ventes. En fait, malheureusement, on sait souvent qu'un deuxième bouquin se vend toujours un peu moins bien que le premier. Et du coup, je pense qu'on fera le point en fait avec mon éditeur. Et puis c'est lui qui dira si ça vaut le coup ou pas. En fait, c'est triste, mais ça reste quand même un commerce, quoi.
Clairement. Puis j'espère qu'un jour il y aura carrément du showrunner parce que on a carrément un pur pitch là de série, quoi. Voilà, en tout cas, c'est... Excuse-moi.
Il y a eu quelques petites pistes, ouais. Bon, pour l'instant, rien de concret. Voilà.
Ah, ça serait trop cool. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir ici dans Bande Geek Mafia.
Plaisir partagé, merci.
Vraiment, merci beaucoup.
Merci pour tout.
Et donc on rappelle, hein, Kamel Benaouda, deux romans, pour l'instant, voilà, publiés chez Gallimard Jeunesse. Norman n'a pas de super pouvoir, précipitez-vous. Et puis LX18, magnifique aussi.
Eh bien voilà, c'est le temps de dire au revoir à nos auditeurs. On va se donner rendez-vous d'ici 15 jours. Et puis on va laisser bien gentiment, bien tranquillement, nos amis de Rudy's Bike s'installer. On va, voilà. Et on vous dit au revoir et merci Kamel d'être venu.
Merci à vous.
À bientôt.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Radio G. www.radio-g.fr